soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue sur les bonnes ondes de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en moins de 10 minutes une question en lien avec des technologies numériques et informatiques que l'on manipule tous les jours, que l'on trouve formidables ou alors terrifiantes, mais qu'on a quand même du mal à comprendre. Après avoir parlé du World Wide Web la semaine dernière, nous allons nous intéresser aux navigateurs. Ce sont des logiciels qui nous permettent d'explorer le web avec nos machines connectées. Firefox, Chrome, Safari ou Internet Explorer sont des noms relativement familiers pour nombre d'entre nous. Mais nous allons voir ce que fait réellement un navigateur et que notre choix pour l'un ou l'autre est loin d'être anodin. Alors, de quoi parle-t-on? La semaine dernière, je vous ai parlé de Tim Berners-Lee, père fondateur du World Wide Web. Eh bien, Tim a aussi créé un logiciel permettant de consulter et afficher le web sur l'écran de l'utilisateur. Il fonctionne sur la base des technologies du web dont nous avons parlé. L'utilisateur entre une adresse web ou URL, le logiciel utilise le protocole HTTP pour communiquer sur le réseau et affiche une page en lisant le langage HTML. Alors, Tim devait être très occupé en 1990, donc il ne s'est pas foulé pour donner un nom à ce tout premier navigateur puisqu'il l'a tout simplement appelé World Wide Web, en un mot. Par la suite, les informaticiens d'un centre de recherche états-unien, le NCSA, ou National Center for Supercomputing Applications, ont conçu un autre navigateur, NCSA Mosaic. Lancé en 1993, il a contribué à rendre populaire le web, notamment parce qu'il fut le premier navigateur à afficher les images directement dans les pages web. Oui, car, à l'origine, les images étaient affichées séparément. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est donc à cette époque qu'on a commencé à voir apparaître des GIFs animés sur les pages web. Vous savez, ces petits dessins ou symboles qui bougent sur les pages et qui les rendaient cool. Mais, je vous l'ai dit la semaine dernière, le web a connu une explosion, surtout à partir de 1994. Notamment parce que les technologies du web sont ouvertes. Cette année-là, un autre navigateur a été lancé et a connu un succès majeur, envoyant Mosaic aux oubliettes. Il s'agit de Netscape Navigator. En réalité, c'est une grande partie de l'équipe de Mosaic qui a quitté le NCSA et monté le projet Netscape. Il a connu un tel succès populaire mondial qu'il est à l'origine du terme français. Alors qu'en anglais on parle de web browser, Netscape Navigator est à l'origine du terme de navigateur web, que j'emploie depuis le début de cette chronique. Et qui a tué Netscape à son tour? Eh bien, c'est le grand méchant Microsoft avec son célèbre Internet Explorer. En 1997, la firme de Bill Gates sort son système d'exploitation Windows 98 en y intégrant solidement son propre navigateur. L'abus de position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation de Microsoft a eu raison de Netscape qui représentait encore 20% du marché en 2000, mais moins de 2% en 2003. Mais à cette époque, deux nouveaux projets voient le jour. Alors que 2003 incarne la victoire écrasante de Microsoft dans la guerre des navigateurs, la fondation Mozilla lance son navigateur qui sera baptisé Firefox. En parallèle, alors qu'Apple vendait ses systèmes d'exploitation Mac avec Internet Explorer, Microsoft délaissa les mises à jour pour Mac, incitant Apple à développer son propre outil, Safari. Firefox est un navigateur sous licence libre pour Windows, Mac et Linux. Safari est développé par la firme Apple et fonctionne aujourd'hui uniquement sur Mac. Adapté d'un projet libre, ce logiciel est sous licence propriétaire. Firefox fut le premier à sérieusement concurrencer Internet Explorer pour atteindre un tiers de part de marché en 2008. Safari a ensuite profité de sa pré-installation sur les ordinateurs d'Apple pour s'imposer, mais n'a jamais dépassé les 20%. Et qui a tué Internet Explorer? Alors celui-là, vous le connaissez, c'est le grand méchant Google avec son navigateur Chrome sorti en 2008. Développé à partir du navigateur libre Chromium, c'est un logiciel propriétaire distribué gratuitement. Google a également abusé de la position dominante de son moteur de recherche en le développant pour fonctionner plus rapidement avec Chrome et surtout pour faire la publicité, parfois agressive, pour son navigateur. Ainsi, depuis plus de 10 ans, Chrome connaît une croissance continue de son utilisation dans le monde pour atteindre aujourd'hui environ 2/3 de part du marché, loin devant Safari et Firefox. Aujourd'hui, la navigation sur mobile, de plus en plus importante, fait émerger de nouveaux acteurs. Ainsi, le navigateur UC Browser, développé par la société chinoise UC Web, est aujourd'hui le troisième navigateur le plus utilisé sur les mobiles, en particulier dans les pays comme la République populaire de Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Pakistan. Mais réfléchissons un instant. Je vous ai parlé de l'universalité comme un élément fondamental de la philosophie du web lors de sa création. Le navigateur est un outil formidable qui s'adapte à toutes les machines, ordinateurs, smartphones, tablettes, et qui permet de voir toutes les pages web sans distinction. Mais que se passe-t-il lorsqu'un logiciel domine le marché? Eh bien, les développeurs de pages web construisent les pages pour ce navigateur. C'est ce qui s'est passé avec Internet Explorer au début des années 2000, où plusieurs sites ne fonctionnaient pas ou peu avec d'autres logiciels, et pire, demandaient à leurs utilisateurs d'utiliser Internet Explorer. Eh bien, depuis 2017, de plus en plus de sites vous expliquent que votre navigation sera meilleure avec Chrome lorsque vous utilisez un autre logiciel. Et il n'y a pas que les sites de Google, Groupon, Airbnb ou encore Seamless font ce genre de choses. Mais pourquoi cette guerre des navigateurs? Quelle raison pousse à conquérir des parts de marché pour des logiciels qui sont aujourd'hui gratuits? Pour cela, il faut comprendre qu'un navigateur fonctionne en transmettant un grand nombre de données. Il serait trop long ici d'expliquer toutes les données qui peuvent être collectées par votre navigateur, mais elles sont nombreuses. Prenons un exemple. Dans son livre blanc sur la vie privée, Google Chrome Privacy White Paper, on peut lire que Chrome a une option d'auto-remplissage des formulaires, autofill, qui envoie des informations à Google. Une étude menée par Douglas Schmidt de l'université Vanderbilt explique que, je cite, « Chrome collecte toute une série d'informations personnelles avec la fonctionnalité de remplissage automatique des formulaires, qui inclut typiquement le nom d'utilisateur, l'adresse, le numéro de téléphone, l'identifiant de connexion et les mots de passe. » Et il poursuit, si l'utilisateur se connecte à Chrome avec un compte Google et active la fonctionnalité de synchronisation, ces informations sont envoyées et stockées sur les serveurs de Google. Voilà pour un petit aperçu. Mais on comprend ainsi que le navigateur est un outil supplémentaire pour renforcer la place des GAFAM sur le marché des données qu'elles nous prennent gratuitement. Et nous, dans tout ça? Il est difficile de concevoir tout ce que notre navigateur divulgue de notre activité en ligne. Toutefois, certains sites web proposent de vous y aider. Le site anonymat.org propose une rubrique intitulée « Vos traces » qui vous donne toutes les informations basiques que votre navigateur transmet au site web. La taille de l'écran, le système d'exploitation, l'heure de votre horloge, etc. Un autre site appelé amiunique.org, littéralement « Suis-je unique ?», analyse vos traces et les compare au reste des utilisateurs du web pour savoir si vos caractéristiques permettent de vous identifier de manière unique tout au long de votre navigation. Enfin, je vous conseille le site clickclickclick.click où clic s'écrit avec C-L-I-C-K. Et là, c'est encore mieux. Le site vous indique ce qu'il détecte et notamment tous les mouvements de votre souris, de votre fenêtre. Bref, je vous laisse tester. Une fois que vous avez une idée de ce que fait votre navigateur, il faut garder à l'esprit que nous avons la chance d'avoir le choix. Il existe en réalité un grand nombre de navigateurs autres que ceux des GAFAM. De plus, comme je vous l'ai déjà expliqué, le logiciel libre offre dans ce contexte une sécurité unique. La garantie de ne pas communiquer vos données à Google, Apple ou Microsoft. Il existe un grand nombre de navigateurs libres, mais le plus populaire, à juste titre, est Firefox. Développé par la fondation à but non lucratif Mozilla. Conçu de manière ouverte, partagée et gratuite, il fonctionne sur tous les ordinateurs et mobiles et permet une grande personnalisation, notamment concernant la sécurité. Mais Vous savez, le meilleur navigateur de tous les temps, il est français et il s'appelle Éric Tabarly.